Tu es une jeune mère ou un jeune père de famille. En règle générale, tu es plutôt dans la trentaine. Et tu te balades dans la rue avec ton enfant, ton sang, ta fierté, ta vie. Un inconnu croise alors ton chemin et il dévisage ta progéniture avec un regard insistant, qui peut être à la fois interrogateur, voire un regard de dégoût, en voulant dire « Mais c'est quoi son problème? Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Insupportable, n'est-ce pas? Un jour, Laetitia Henry, lasse d'un énième regard de trop envers sa fille Raphaël, porteuse de trisomie 21, a enfin trouvé sa réponse. Ouais, et alors?
Donc bonjour Laetitia Henry.
Bonjour Brian.
Tu es la fondatrice de la marque Ouais et alors, qui est donc une marque inclusive, écologique et très engagée, comme tu vas nous le dire. J'aimerais tout simplement, première question, que tu nous racontes un petit peu qui tu es et ton parcours en quelques mots avant qu'on développe.
Oui, donc moi je suis Laetitia, j'ai 37 ans. Je suis maman de deux enfants, comme on dit toujours, extraordinaires, qui ont un petit plus. Raphaël, qui a 6 ans maintenant et qui a une trisomie 21, et Elias, qui a 8 ans et qui a des troubles du spectre autistique. Et du coup, sans trop en dire, mais effectivement, mes enfants ont fait que j'ai revisité ma vie et surtout ma destination pro, on va dire, et j'en ai fait un vrai projet.
Tu expliques donc dans ton histoire sur ton site que l'idée est née d'un regard lorsqu'un inconnu a dévisagé ma fille, Raphaël, porteuse de trisomie 21, oubliant toute forme de discrétion et de respect. J'ai voulu lui répondre, mais j'ai pas osé pour la tranquillité de mes enfants. On verra que c'est une question que se posent pas mal de parents, dans ce cas, en particularité quand des personnes, notamment des enfants, peuvent nous dévisager, puisque je suis moi-même porteur, comme l'auditeur le sait, d'un handicap moteur à titre personnel. Alors j'ai eu envie d'écrire sur nos vêtements, puisque c'est une marque de vêtements, le message que nous avions à répondre, afin qu'à sa lecture, la personne détourne son regard en comprenant ma réponse assumée. D'où le « ouais » et « alors ». Donc c'est un peu un ton, j'ai envie de te dire, déterminé finalement. C'est « ouais » et « alors ». Il y a un peu un ton de défi quelque part.
Oui, après la réponse est affirmée, mais on l'a quand même marqué d'un point, justement, parce que c'était un peu pour contrebalancer, que ce soit pas pris comme non plus un message agressif ou autre, sans exclamation ou sans point d'interrogation, parce que mon but à ce moment-là, c'était pas d'interroger les gens et savoir ce qu'ils pensaient. Ça, je m'en contrefichais. Mon but, c'était vraiment de permettre, en fait, par ce message, de renvoyer, de faire un pied de nez en fait, et de renvoyer aux yeux de l'autre qui regarde de façon pas toujours bienveillante, on va dire. C'est surtout pour cela. Les autres, évidemment, tous les regards ne sont pas malvenus. C'est vraiment ceux qui sont mal intentionnés. Et du coup, c'était dans l'idée d'en faire une réponse et surtout de qui voit en fait qu'on perçoit les regards. Et qui nous touche, et en fait à travers ça amener une réponse et l'amener à lui-même s'interroger peut-être sur le fait que son message est perceptible,
quoi. Sur ce qu'il porte, sur comment il touche la personne à qui il est destiné. On rappellera d'ailleurs que beaucoup de communication est non verbale, et c'est important d'ailleurs ce que tu dis, que de rappeler que ces messages sont souvent perspectives, que forcément les gens sont des êtres humains et qu'on perçoit des messages qui ne sont pas verbaux. Mais ton credo, c'est pour ça que je parlais de ça dans ma question précédente, en fait ton credo, c'est la bienveillance, justement, c'est pas du tout de forme d'agressivité.
Exactement. En fait, l'idée, c'est vraiment de proposer une marque, en fait, c'est une marque lifestyle, on appelle ça, donc qui ou dans lequel, à travers notre message et tout ce qu'on met autour de notre marque, notre univers, on propose un univers hyper inclusif. Où en gros c'est le vivre ensemble, et en fait à travers tout ce qu'on peut proposer et nos vêtements, l'idée c'est de projeter cette société à laquelle nous on rêve, en tout cas dans laquelle on rêve de s'inscrire, et donc avec des personnes bienveillantes, tolérantes, et puis et du coup à travers notre communication sensibiliser en amenant des témoignages, à travers notre histoire déjà. Enfin, rien que le whaler en lui-même, quand il est marqué sur nos vêtements, j'ai plein de retours de clients qui me disent, bah, ça m'a permis de pouvoir en parler avec d'autres, parce qu'en fait, ce whaler sur le vêtement, il interroge. Donc ça crée du lien, ça permet à d'autres de raconter leur histoire. Et puis donc nous, on sensibilise et à la fois on envoie un message positif sur les différences en montrant des parcours inspirants.
Et alors, parce que moi je le sais, mais pour l'auditeur c'est très important, comment, parce que en dehors de ce qui est affiché sur le vêtement en question, comment cette communication se matérialise? C'est-à-dire, c'est, tu communiques sur Instagram, tu fais des shootings avec des personnes qui veulent afficher leurs différences, dont on va pas en faire mystère, même si je devais avoir un autre dont j'en suis, puisque je sais pas d'ailleurs, tu peux peut-être nous le dire, ou peut-être pas, mais j'ai une interview qui va paraître bientôt dans sur ta page Instagram.
Effectivement, donc du coup, on a eu le plaisir de collaborer ensemble. Nous, notre but avec Whaler, c'est de représenter tout le monde. Donc du coup, l'idée lors de nos shootings, c'est de faire appel à des volontaires qui sont là pour. On cherche pas des modèles professionnels ou autres. On prend des gens ordinaires. Et c'est ça qui nous plaît en fait, c'est vraiment de montrer l'aspect vrai des choses. Enfin, on est et donc représenter la société telle qu'elle existe. Donc ça, c'est un point important pour nous. Et du coup, effectivement, on a eu le plaisir de travailler ensemble, enfin de faire cette expérience aussi bien par le shooting que pour les portraits inspirants, parce qu'un autre point sur lequel on sensibilise, c'est à travers des vidéos, témoignages que l'on propose, donc les fameux portraits inspirants où du coup on va interroger des personnes qui ont un parcours assez atypique et qui ont fait en fait de leur différence une force, et du coup c'est ça qui nous plaît beaucoup, et ton témoignage nous a énormément plu. On a hâte maintenant de le proposer, ça arrive là pour les prochaines semaines, donc voilà. C'est,
et je dois dire, alors déjà je dois te remercier d'une certaine manière, parce que dans ma vie, je m'imaginais faire beaucoup de choses, mais certainement pas mannequin. Donc je pourrais dire, je crois que j'en discutais avec ma maman il y a encore pas si longtemps que ça, quand on avait tourné l'interview qui va paraître bientôt, elle disait, mais au moins tu pourrais dire que t'as été mannequin une fois dans ta vie. Parce qu'au final, finalement, c'est un peu l'esprit, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de t'interviewer directement, c'est parce qu'au final, c'est que tu viens de le dire toi-même, tu ne prends pas des gens qui sont professionnels et qui n'ont pas l'habitude de défiler ou de porter en fait leur image pour une marque, quelle que soit la marque d'ailleurs.
Ouais.
Je pense que le caractère inclusif en fait de ça, le message justement est très fort. Alors, quand l'interview sortira, au mois de novembre, on diffusera bien sûr Instagram, c'est ouais et alors, donc c'est ouais, donc on va épeler OUAIS.ET, ouais et point alors, donc alors ALORS
sur Instagram. Ouais.
Sur Instagram, tu as Facebook, je
dois dire. Oui, aussi
sur Facebook, même ouais et alors.
Ouais alors tout attaché.
Ouais alors tout attaché. T'es pas sur TikTok?
On est aussi sur TikTok.
On est aussi sur TikTok.
Sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter.
On mettra bien entendu tous les réseaux sur lesquels on peut te retrouver, toi et finalement la petite communauté que tu formes finalement, puisque j'ai l'impression que, enfin moi il m'a semblé quand j'étais au shooting, il m'a semblé qu'en fait ta vocation de former, ou je sais pas, est-ce que c'était ta vocation justement de former une communauté autour de ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement?
Ben, c'est vraiment quelque chose qui est venu naturellement. Après, moi, évidemment, quand je suis partie dans ce projet, l'idée, c'est évidemment que derrière de former une communauté quelque part autour, puisque sinon, on n'existe pas, on est invisible. Mais effectivement, ça s'est fait totalement naturellement. Et puis aussi, on a eu un soutien assez incroyable de la part des médias dès le lancement, ce qui nous a aidé justement à construire, enfin à faire connaître notre marque et nos engagements, et du coup de toucher une communauté plus large, et on espère qu'elle continuera de s'agrandir. Le but en fait, moi je pars toujours dans l'idée qu'en fait souvent on pense tous individuellement qu'on est un peu dans un monde qu'on comprend pas toujours, etc. Et en réalité, je pense qu'on est plein d'éléments de part et d'autre bienveillants, où en fait, on a tous un peu cette même aspiration à un monde beaucoup plus respectueux. Et je pense qu'en fait, il faut juste qu'on se retrouve, quoi, à travers des projets. Donc, voilà.
Je pense que pour cette chose-là, en fait, c'est pleinement réussi, parce qu'en fait, l'ambiance qu'il y avait entre personnes qui ne se connaissaient pas et qui, pour beaucoup d'entre eux, dont surtout moi, je faisais partie, ne s'étaient pas rencontrés, était en tout cas super bienveillante. Et je dois dire qu'à titre personnel, ça fait que c'est quelque chose qui fait du bien. On est un peu... Moi, c'est le but de ce podcast, si tu veux. On est dans un contexte où il y a beaucoup d'inflation, de guerre, des choses qui sont négatives. Et je souhaite, comme toi... essayer d'influer quelque chose de positif où les gens puissent avoir un sourire. Et finalement, je serais tenté de dire, je vais revenir sur ce que tu disais sur le jugement, parce que moi, c'est très important. Quand tu apprends que, en fait, ton premier enfant est atteint en fait d'une maladie, que ça t'est diagnostiqué, que ça t'est annoncé, mais à ce moment-là, t'es préparé à rien, en fait. Tu n'es pas au courant de ce qui va se passer, du rire. Mais est-ce que tu te souviendrais, par exemple, du jour... Est-ce que c'est le jour que tu as décrit sur le site internet, le jour où tu as eu le premier regard, en fait, on va dire, discriminant? Et comment tu as réagi à ce moment-là?
Juste pour faire un petit décroché sur tes premiers mots au sujet du shooting.
Bien sûr.
Je suis hyper touchée déjà que tu aies eu ce ressenti-là, parce qu'effectivement, ouais, alors c'est avant tout pour valoriser les différences, mais avant tout les gens. Donc, nous, notre but, c'est de donner la chance à tout le monde et de donner une expérience. Sayu, qui a participé avec toi, quelqu'un qui est porteur de trisomie 21, était un peu aussi désespéré, un peu de pas trouver de travail ou autre. Et en fait, j'ai eu aussi écho que cette parenthèse a été pour lui révélatrice, et en fait, ça l'a remotivé vers d'autres choses, y compris justement vers des castings et autres, donc qu'il aurait jamais envisagé avant. Donc ça, c'est clairement c'est hyper satisfaisant, en tout cas, de voir que le peu qu'on peut offrir, en tout cas, donne un petit peu de magie aux gens, et ça, c'est ce qui est le plus important. Du coup, pour la question sur les jugements, enfin le premier ressenti des jugements des gens, c'est effectivement, le premier regard n'a pas été celui que j'évoque au moment du projet. Ce regard-là, c'est celui qui m'a donné envie d'y répondre, mais c'était sûrement un des regards dans un trop-plein de regards. Les premiers moments où Raphaël, donc c'était ce regard-là à la piscine, c'était à ses 2 ans. Et en fait, sur les 2 premières années, j'ai eu un peu, justement, beaucoup de mal à m'habituer au fait que partout où on passait, on était regardé, enfin elle était regardée. En fait, j'avais pour habitude de mener une vie à peu près ordinaire, et donc du jour au lendemain, partout où je passais, les gens se retournaient, on voit les dames qui commentent dans l'oreille du monsieur, que monsieur finit par se retourner, enfin on voit tout ça, j'ai vu jusqu'à des gens dans des magasins faire des demi-tours pour venir voir ma fille au-dessus de la poussette. Ah oui. et c'est véridique, et ma mère me croyait pas quand je lui en parlais, et ça, elle l'a vu de ses propres yeux.
Les demi-tours
dans des boutiques où en fait on les voit faire semblant de venir voir derrière, et en fait ma mère s'était écartée pour aller voir ce que j'avais vu venir la chose.
On parle d'adultes, là.
Et d'adultes, oui. D'accord, et du coup, qui s'arrête juste derrière ma poussette, derrière mon dos, et qui, au final, était là pour revenir voir Raphaël. Donc, bref, enfin, c'est des petites choses. Encore une fois, c'est pas forcément méchant, mais en tout cas, c'est assez déstabilisant quand, au départ.
Pour c'est pas le méchant, mais l'histoire de quelqu'un qui fait demi-tour pour venir voir de manière apparente, Raphaël, enfin dans son cerveau à lui, le problème qu'il a exactement, ça relève pas de la méchanceté pure et dure,
c'est de la
curiosité, c'est une curiosité absolument
c'est une curiosité malsaine. Voilà, c'est ça, c'est une curiosité plutôt malsaine. Après, il y a aussi, donc là c'est uniquement lié au regard. Après, tu as autour tous les commentaires, en fait, les vrais jugements pour le coup, là, qui sont pas uniquement perceptibles mais vraiment audibles.
Ça se manifeste comment?
Des questions pour Raphaël, déjà, à travers la trisomie, enfin, pour beaucoup, ça existe encore, mais vous avez pas eu de diagnostic? Alors, si, j'ai le malheur de répondre que oui, en plus, on a fait le choix de la garder, bah là, on a encore tout un tas de jugements qui arrivent en disant bah pourquoi, en gros, j'ai ma fille qui est à côté de moi et il y en a qui ont aucun scrupule à dire pourquoi elle est là. Mon fils, on a connu un tas de commentaires au sujet de l'éducation, parce que bah, l'autisme, ça se manifeste aussi par des crises qui sont pas toujours gérables, ou en tout cas où on doit l'accompagner au sujet de ses émotions. Donc il y en a d'autres qui comprennent pas comment on peut du coup être dans l'accompagnement et pas être dans la réprimande. Donc ce genre de jugement, on en a à foison. Et voilà, en fait, il faut avancer avec nos enfants pour qu'ils avancent bien, et à la fois faire avec les jugements et les regards des autres qui, pour le coup, nous agacent, quoi.
Bien sûr. Mais justement, tu as dit quelque chose de très intéressant sur lequel je voudrais rebondir. Tu parles d'accompagnement, dans le cadre notamment pour l'autisme. Est-ce que tu trouves que cet accompagnement, alors, dans le cadre de l'école, l'éducation nationale, ou dans le cadre d'accompagnement médical est suffisant?
Je dirais oui et non. En fait, oui, aujourd'hui, Elias, il a un suivi qui est suffisant, mais parce que j'ai un peu fait des pieds et des mains pour l'avoir. C'est-à-dire que tout petit, on a été vers un camp. Donc après, il y a des structures qui existent, Raphaël, et avec un suivi par un CESAD. Enfin, il y a différentes structures. La seule chose, c'est que du coup, après, c'est à nous sans cesse de faire des démarches pour répondre aux besoins de nos enfants. Et en fait, c'est un combat assez épuisant, parce que souvent on fait face à des refus, il faut faire des recours, et il faut faire il faut presque se montrer menaçant par le biais de médias ou autres pour vraiment arriver à ce qu'on veut, et ce qui n'est pas juste. En fait, si je regarde à mon échelle, mes enfants sont plutôt bien suivis, accompagnés. En revanche, je fais partie d'associations dans lesquelles je suis engagée, et donc je vois aussi ce qui se passe pour les autres. Et y a des parents qui n'ont pas toujours qui n'accèdent pas forcément aux mêmes choses que nous, et ça c'est pas logique. C'est pas parce que une fois qu'on est un peu visible, on fait que des menaces, ou du coup on obtient plus facilement des choses, et d'autres qui vont avoir un peu moins de visibilité vont pas obtenir la même chose. Donc c'est totalement injuste, en fait, qu'on ait un système qui fonctionne de cette façon là
ce qui est dingue, c'est quand je t'écoute, c'est vrai que cette interview, cet entretien, il est un peu particulier à plus d'un titre, parce que je dis toujours, en fait, dans Where is Brian, je laisse parler de l'invité, on ne parle pas de moi. Sauf que dans ce cas précis, c'est un peu plus, on va dire, complexe, puisque en fait, moi, quand je t'entends parler, et surtout, encore plus dans cette dernière partie, et je revois un peu, c'est un peu comme un miroir, et je revois exactement le combat de mes parents avec quelques années de plus d'écart, il y a 20 ans, et c'est en fait exactement la même chose. Et ce qui est en même temps paradoxal, c'est que quand j'ai interviewé monsieur le maire de Rouen, Nicolas Maillet-Rossignol, il m'expliquait lui-même, en fait, que d'un point de vue culturel et social, en fait, ces changements en matière de mentalité, de non-jugement, de perception erronée, il reconnaissait lui-même que c'est très long à venir. En fait, on parle d'un combat qui est sur des décennies pour arriver à atteindre un quelconque changement. Et donc, je crois que si on peut le dire tous les deux, c'est un combat qu'on devra mener ensemble, avec d'autres personnes, en association, pendant encore de très nombreuses années. Et c'est, je me permets cet aparté parce que c'est très important de le dire. Tu voulais dire
Oui.
Vas-y.
Effectivement, enfin, pour le coup, je pense que c'est un combat qui, enfin, que nous on entame, mais que d'autres ont déjà entamé bien avant nous, donc qui est très long. Une société, quand nous ça nous arrive, on a envie de la bousculer de suite. On comprend pas trop pourquoi les choses prennent autant de temps, en fait, pour imposer de simples droits ou lois qui existent. Hein, la loi de l'inclusion elle date de 2005, et on est encore en train de se battre pour que certains enfants puissent aller à l'école. Mais donc effectivement, c'est un peu difficile quand nous on est en place de se dire il va falloir encore attendre quelques années pour qu'on ait réellement cette société inclusive. Après, je pense que les réseaux sociaux ont des travers, mais ont aussi une force. Et pour le coup, je pense que ça donne de la visibilité aux gens qui ont une différence. Et ça peut justement aider à aller nettement plus vite dans cette bascule parce que ils sont entendus. Les personnes peuvent plus facilement expliquer leur parcours de vie et puis du coup toucher l'ensemble des personnes. Et à partir de là, si on est compris à plus large échelle, ça va plus vite.
Ce qui d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire sur la loi de 2005, était aussi, je peux dire, améliorée, même si c'est un fait qui est discutable en 2009. Oui. Ayant interrogé le maire à le sujet lui-même, alors c'est pas sa formule exacte, mais ça voulait dire ça, que en gros c'était une coquille vide. C'est-à-dire que faire des lois c'est bien, mais quand on n'a pas les moyens en fait en face, bah c'est juste du texte, quoi. Et je pense que justement le but en fait de notre combat, c'est d'arriver à ce qu'on passe d'un texte qui est une coquille vide, parce que moi j'ai plus de franchise, c'est plus facile à dire pour moi qui n'ai pas élu que monsieur le maire, mais l'intérêt de se battre pour ça, c'est justement en fait que ces textes ne soient pas une coquille vide.
Mais oui, effectivement, enfin pour le coup, il y a la loi et puis après la façon dont elle est appliquée ou dont elle peut être appliquée, et effectivement c'est vraiment une question de moyens. J'ai pu participer à des comités sur l'inclusion avec l'éducation nationale où on était plusieurs représentants d'associations à discuter autour de la table. En réalité, on va dire que avant même le comité, l'issue était déjà écrite, et en réalité on nous demande des idées, donc nous on y travaille des heures pour remettre des choses qui devraient déjà exister, qui parfois sont juste du bon sens, hein, sans même avoir besoin de moyens. Et en réalité, ça ne se fait pas parce que c'est pas toujours les volontés politiques. Enfin, en fait, l'idée c'était de montrer que le sujet est travaillé. Et disons que j'ai aussi un regard comme toi, parfois un peu plus critique, où du coup. Une fois qu'on est face à ça et qu'on se rend compte que parfois c'est pas une mascarade, mais en tout cas on voit les représentants venir 3 minutes avant la conférence de presse.
En fait, je voulais que tu racontes cette anecdote-là. Continue.
Je vais me faire des ennemis, mais
non, mais c'est important. Je pense qu'il faut que tu la racontes.
Je pense en fait effectivement donc au moment de ces comités. Le représentant en question était absent, en fait, était représenté donc par quelqu'un qui tenait évidemment le poste, hein, sans aucun problème. Mais du coup, le représentant élu, lui, est venu vraiment 3 minutes avant la conférence de presse, est reparti juste après, et on l'a jamais vu sur les autres comités. Donc, je trouve ça dommage, en fait, sur ce genre de sujet, et compte tenu de l'importance que ça a, de venir juste au moment où les caméras sont présentes, en fait. C'est des choses qui moi, m'interrogent, en tout cas, sur les vraies volontés. Et surtout, quand on voit que les idées qu'ils avaient proposées en introduction de ce comité, après 6-7 réunions, au final, arrivent au débouché. Suite à toutes les propositions qu'on a faites, on conclut sur une charte qui avait été proposé, mais qui ne changera rien dans les faits. Ben pour moi c'est du temps perdu, presque de la manipulation des associations pour faire semblant de les intéresser et de les interroger pour nous donner le sentiment en tout cas d'être entendus, et en réalité on a tous eu le sentiment de n'avoir rien pu amener puisqu'en fait on n'est pas entendu.
Mais justement, c'est ma question, donc c'est une transition qui est parfaite. Quid du rôle des médias, puisque le rôle des médias est techniquement d'amplifier un message, mais quid du rôle des médias dans notre combat? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Quel message aurais-tu envie de balancer comme ça?
Les médias, honnêtement, aujourd'hui, enfin, ils ont un rôle hyper important. C'est eux qui portent nos messages, et c'est grâce à eux qu'on peut être entendu et que des solutions peuvent être mises en place après. Donc, le rôle des médias, pour moi, est extrêmement important. Après, effectivement, il faut être vigilant, en fait, sur les choses qu'on veut amener, ou pour pas qu'elles se trouvent déformées ou en tout cas exagérées pour justement Bon, c'est toujours la partie où il faut être vigilant, mais en tout cas, pour moi, les médias aujourd'hui sont un vrai allié dans notre cause, puisque c'est grâce à eux, en fait, qu'on fera évoluer les choses. Donc, même si parfois, il y a certains médias qui vont faire du sensationnel, et c'est pas la partie qu'on attend, en fait. On veut vraiment relater des vrais faits. Mais enfin, moi, pour le coup, tous ceux que j'ai pu rencontrer par le biais de notre projet ont tous été des journalistes très respectueux et très intéressés par ce qu'on avait à dire. Donc, je suis hyper touchée de voir que les journalistes ont ce sujet à cœur, quoi.
Je dois dire, et je fais également cet aparté pour le signaler parce que c'est très important, que également, pour ma part, tous les journalistes que j'ai pu rencontrer pour interview ou autre demande ont été d'une bienveillance exemplaire et dans une forme... Dire de compréhension, c'est compliqué, puisque quand on ne vit pas le problème, c'est compliqué d'en faire ressortir quelque chose de réellement puissant, à mon sens. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans cette situation, la preuve, je regarde deux, finalement, c'est pas une interview qu'on fait, c'est une discussion. Ouais. Parce que je peux pas non plus... Il est impossible pour moi, je vais pas... quelqu'un de très franc et de très honnête, à l'auditeur, je peux pas me détacher complètement de ce que tu dis, alors que techniquement, ça serait le rôle qu'on attendrait de moi. Mais c'est techniquement pas possible, en fait, de me détacher de ce que tu dis. Cela maintenant étant dit, le rôle des médias est fondamental. Mmh. Et je tiens quand même à saluer la bienveillance des journalistes que j'ai pu recevoir ou fréquenter dans le cadre de ces rencontres ou de ces entretiens. Et je me permettrai de dire également que dans un monde où il y a beaucoup de désinformation, et on y reviendra, y compris sur le sujet du handicap d'ailleurs, et peut-être même surtout, finalement, aujourd'hui, n'importe qui a un smartphone ou un micro et un iPad pourrait finalement se prétendre journaliste. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que pour moi, il y a beaucoup de journalistes qui se posent la question de l'intérêt de leur métier, mais finalement, c'est essentiel, parce que c'est d'apporter du fait, du concret et de la diffusion sur des choses dont la société a besoin. Et c'est absolument vital, et je me devais de le rappeler. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que finalement, la question que j'avais aussi, c'est que qu'est-ce que tu ressens finalement à l'égard de ce qu'on appelle, bon, je vais déjà donner mon avis en disant ça, mais je veux dire, ce qu'on appelle faussement des normes sociales, c'est-à-dire des normes dans leur ensemble qui impliquent qu'en fait, toi ou tes enfants ou moi-même n'avons pas leur place puisque nous ne correspondons pas à la norme sociale. Qu'est-ce que t'éprouves vis-à-vis de ça et comment on fait changer les choses dans ce combat, justement?
C'est tout un sujet. Moi, effectivement, je vais vite te rejoindre aussi sur le point de vue. Enfin, les normes sociales, c'est quelque chose que j'ai complètement envie de comment dire, d'enlever. Enfin, en tout
de
cas,
casser.
De casser. Voilà, l'idée, c'est vraiment de sortir des cases. Et c'est ce que nous, d'ailleurs, avec la marque, on met en avant, c'est vraiment sortir des cases, sortir du lot, et puis sortir complètement de ces normes où du coup toute la société a été organisée selon des critères comme quoi si on est ci ou ça, on est bon, et si on ne rentre pas dedans, on est ni beau ni compétent ni quoi que ce soit. Alors qu'en réalité, si on était chacun avec un œil bienveillant envers les autres, on se rendrait compte que chacun a quelque chose à amener à cette société. Et moi, j'avais entendu justement une personne qui avait témoigné de sociétés, sans citer de nom de marque, mais qui font de la compote bien connue, ouais. où ils emploient des personnes autistes à la pesée du sucre. Et en fait, ils y font des économies de dingue. Parce qu'en réalité, du coup, par rapport à l'échelle qu'ils ont, ou entre guillemets, ils peuvent faire plus ou moins, au niveau du grammage, avoir une erreur possible sur quelqu'un qui va occuper la fonction de façon ordinaire. Quelqu'un qui est autiste, elle sera pesée au gramme près. Et donc, ils se sont rendu compte que finalement, il y avait un vrai intérêt, en fait, d'avoir des personnes qui sont aussi minutieuses et qui ont besoin de cette précision. Donc il s'agit juste en fait de, d'être à l'écoute des capacités de chacun et puis justement de les exploiter, de les mettre en avant et pas à l'inverse s'arrêter aux différences qui peuvent gêner ou autres. Il faut s'intéresser aux gens et à partir de là on voit que chacun a quelque chose à amener à cette société.
Mais c'est ça, mais justement alors on peut le déplorer ou l'apprécier, ça c'est les opinions de chacun, mais le fait est qu'on vit dans un monde capitaliste. Et la réalité, c'est aussi de démontrer, je pense, que tout à chacun, peu importe sa condition, est capable de créer de la valeur.
Complètement.
Voilà. C'est le but est de le faire au-delà des jugements. Alors, ces jugements au quotidien, quand on est sans cesse comparé à la norme, ça se manifeste comment? On en souffre au quotidien? On garde pour soi ou qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'exprimer, mais on peut pas non plus exprimer tout le temps, donc. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on intériorise ça? Comment on vit avec ça, la charge mentale au quotidien?
Ben en fait c'est un sujet en fait. Donc moi quand je parle de différence, je fais pas focus uniquement sur le handicap. Hein, je parle de toutes les différences et c'est aussi pour
c'est
ça
très
d'ailleurs que on s'engage vers le harcèlement scolaire justement avec Oyalor, parce qu'en fait l'endroit où pour moi elles sont le plus difficiles à vivre peut-être au quotidien, c'est dans les écoles. Et c'est là où chacun est pointé du doigt pour sa différence. Moi, j'ai été moi-même moquée enfant. On a tous subi notre lot. Et à partir de là, ben, je pense que on a chacun une réponse, en fait. Soit on va avoir des gens qui vont être complètement dans le repli sur soi. Et ça commence dès l'enfance, hein, dès lors que on est moqué. En fonction du tempérament, certains vont être complètement dans le repli pour s'effacer, pour prendre le moins cher possible, on va dire. Plus tu es transparent et moins on va peut-être t'attaquer, ce qui est pas toujours le cas puisque malheureusement on tombe sur certains durs. Et ça peut impacter une vie entière. Un enfant qui se replie, il peut dès lors être enfermé à vie et du coup passer complètement à côté de sa vie. Il y en a d'autres qui, moi j'étais plutôt dans la case de ceux qui riaient fort pour montrer que ça m'atteignait pas. En réalité, je rentrais chez moi et je pleurais un bon coup tous les jours. Et il y a ceux qui vont être les rebelles et qui vont pas se laisser faire et qui vont taper dans le dur entre guillemets pour se faire respecter. En fait, il y a différentes façons de le faire. Donc moi, je suis plutôt aujourd'hui en fait enfant. Ben comme je te disais, j'en riais devant les autres pour montrer que ça m'atteignait pas et je pleurais ensuite. Et aujourd'hui adulte, c'est l'inverse en fait. J'ai envie de revendiquer ces différences. J'ai envie que les gens s'expriment. J'ai envie que en fait, je pense que c'est par les discussions et surtout par l'œil de l'adulte qui doit veiller justement à ce que les enfants ne subissent pas, parce qu'il y a des petites agressions où on se dit c'est des choses d'enfants et en réalité si on les ramène à la même chose à l'âge adulte, on serait complètement bouleversé. Donc il faut pas minimiser les actes entre enfants. Et du coup, c'est important en fait.
D'où le fait de revenir à la réponse de l'institution en tant que telle quand il y a des violences qui arrivent.
Oui.
C'est ça. Je pense d'ailleurs qu'à ce titre, tu as dû voir cette fameuse, épouvantable d'ailleurs vidéo d'un adolescent dans un lycée en situation de handicap qui se fait passer à tabac par un groupe d'autres lycéens. Donc je ne sais pas s'ils étaient extérieurs ou intérieurs à l'établissement, en tout cas ça m'avait échappé. Mais justement, alors c'est aussi ça que je voulais aborder avec toi pour finir cet entretien, puisque le temps tourne. Tu vas intervenir, je crois, tu interviens déjà dans des écoles, dans des établissements scolaires pour parler de ces sujets-là, justement.
Oui, je suis déjà intervenue, donc que ce soit en maternelle, primaire ou sur des lycées. Là, l'idée, c'est vraiment de développer ça. Moi, ce qui me motive plus que de faire de la mode ou des t-shirts, c'est vraiment de sensibiliser. Et même donc maintenant j'ai la chance d'avoir une équipe qui continue ça pour que qu'on puisse faire entendre notre message et proposer des produits pour tout le monde. Mais moi je veux vraiment me concentrer maintenant sur cette partie de sensibilisation à travers donc des interventions, que ce soit dans les écoles ou dans les entreprises aussi, parce que finalement la différence elle est partout. Et puis les enfants différents après doivent trouver leur place aussi dans la société adulte et dans le monde du travail. Donc je pense qu'en allant dans les entreprises aussi, on a une carte à jouer. pour faire changer les regards. C'est vraiment la finalité, quoi.
Ouais. Dernière question très franche et sans détour. J'aime bien un peu finir comme ça. Tu vas pas passer toute ta vie, Laetitia, à vendre des t-shirts.
Ben, comme je te le disais, du coup, mon but à moi, c'était pas de vendre du t-shirt, c'était de créer à travers un vecteur. Donc, ça s'est trouvé le vêtement parce que c'était le plus simple pour amener le message. Et puis, on pouvait à travers ça venir à toucher tout le monde. Mais l'idée, non, c'est pas de vendre que vendre du t-shirt. C'est proposer en fait comment dire. Un vêtement, là c'est par le biais d'un vêtement, mais ça peut être par le biais d'autres choses. C'est vraiment le fait de pouvoir après aller sensibiliser. Et l'idée, c'est pas faire une marque pour faire un business, c'est créer vraiment. Moi, clairement, j'ai créé l'entreprise dans laquelle j'aurais aimé moi évoluer, c'est-à-dire qui respecte son équipe, qui derrière, en fait, les réussites, on les vit ensemble. Ouais. C'est-à-dire que voilà, la bienveillance elle est partout et puis j'espère que plus tard on aura la réussite aussi ensemble, mais dans l'idée de faire une société qui a un enjeu social plus que commercial, on va dire. Donc
je vais proposer une interview à tes employés pour savoir s'ils confirment ce son de cloche.
Ben, sans problème, je les laisse venir les yeux fermés.
je plaisante. Franchement, je dois dire que on est obligé de s'arrêter d'un point de vue timing, mais c'est quelque chose de passionnant qu'un sujet que j'aurais pu discuter pendant des heures et des heures. Est-ce que, en guise de fin, tu as un message sur quelque chose qu'on n'a pas abordé ou un message à faire passer à ceux qui nous écoutent, tout simplement?
Des messages, j'en ai toujours. Comme toi, c'est des sujets que je pourrais aborder pendant des heures. D'ailleurs, quand tu es venu, on avait aussi du mal à faire court. Et j'avais également dans tes discours, ça faisait complètement écho aussi à ma façon de penser. Donc déjà, un grand merci, Brian, pour cette invitation. Je suis très contente de pouvoir participer à tes podcasts. Et puis aux auditeurs, déjà s'ils sont arrivés au bout de l'interview, merci d'avoir écouté. Et puis surtout, en fait, il y a deux types de messages. Je m'adresse aux personnes qui sont touchées par une différence ou qui se sentent différents ou pas d'ailleurs. Enfin, l'idée, en tout cas, qui peuvent un peu avoir des craintes face à cette société qui est pas toujours bienveillante justement. C'est de s'accrocher, c'est vraiment de pas se renfermer justement, c'est d'oser aller ouvrir les portes, pousser les portes qui se ferment à nous, jamais se laisser faire et continuer d'avancer, mais de façon positive et constructive, donc pas dans l'agression parce qu'on n'obtient rien comme ça, mais vraiment dans l'échange et surtout il faut pas oublier que les gens s'ils nous dressent des murs, c'est avant tout parce qu'ils ont des peurs. Et donc l'idée c'est de les gommer et de montrer en fait qu'ils ont tort et de les amener directement par le biais de discussions à changer d'avis. Et puis aux personnes qui nous écoutent pour d'autres raisons qui sont pas forcément différentes ou quoi que ce soit. L'idée c'est vraiment de sensibiliser au fait que chaque geste que vous pouvez avoir vers les autres est important et donc il faut un regard, c'est important, il peut être complètement la bienvenue dès lors que justement on sent qu'il y a une attention positive derrière celui-ci. Il faut pas hésiter à discuter aussi, enfin moi je vois qu'on a déjà posé la question en disant du coup s'il faut pas regarder, quelle attitude il faut avoir. Il y a pas d'attitude exemplaire, on va dire, mais je pense que personne se plaindra d'avoir pu avoir un échange ou un regard agréable en fait, qui était pas dans la pitié non plus, mais vraiment dans l'accompagnement et de montrer une forme de solidarité à travers tout ça. Donc voilà, je pense que le bien vivre ensemble, il passe par tout le monde.
Merci Laetitia Henry de m'avoir accordé cet entretien, cet échange, parce que je considère pas ça comme une interview. Et on te retrouve donc sur tes réseaux.